Je lance un appel aux habitants de Colmar et environ à venir rejoindre la manifestation organisée devant la préfecture à 17h ce jeudi 15 février concernant le mal-logement. Voici les principales revendications. Un hébergement n'est pas un logement. Les procédures d'attribution sont à revoir. Réquisition, réhabilitation des logements vacants. Stop à la spéculation immobilière. Construction de vrais logements sociaux. Enfin, contre la marchandisation du logement social, stop à la privatisation HLM. Merci à toutes et à tous pour votre soutien. Marie-Ange, militante du DAL 68. Ciao.
Oui, bonsoir Daniel. Marc de Perpignan. Je viens d'écouter ton reportage et je suis écœuré. J'ai honte d'être français quand je viens d'apprendre que la France a fait rentrer des marchandises qui venaient de Corée, fabriquées par des gens torturés, battus, privés de manger. Mais comment la France peut accepter ça? Enfin, moi, personnellement, je vois quel genre de magasin fait venir ces marchandises. Et pour ma part, je n'en achèterai plus, je n'irai plus dans ces magasins. Pour ne pas les nouer, la farfouille. Donc, Daniel, ciao, bye bye, à plus.
Un éléphant qui fait du vélo. Vous aviez tous compris, bien sûr, ce qu'on vient de vous dire, ce que vient de vous dire Yang Yang, notre traductrice. Un éléphant qui fait du vélo. La Chine, un éléphant qui fait du vélo. Et oui, c'est la définition qu'on a trouvée où on en est de notre voyage à travers la Chine, de Pékin à Hong Kong, et maintenant on va vers Canton. Eh ben, effectivement, cette image-là n'est pas mal du tout. Imaginez un éléphant énorme, voilà la Chine, sur son vélo, qui arrive à tenir en équilibre sur un vélo, ce qui est pas mal du tout, sauf que c'est un tout petit vélo, et on connaît le vélo. Tant qu'on pédale, on tient en équilibre, mais si jamais il y a un incident quelconque, un pneu qui éclate ou un incident, on ne sait pas du tout ce qui arriverait à cet énorme éléphant qu'est la Chine, selon cette métaphore. Il y en a bien d'autres. Quand on propose cette métaphore, vous avez quand même des observateurs avisés qui vous disent que ce serait peut-être mieux de comparer notre pays à un pavillon sur du sable. Voilà, ça veut dire que c'est pas un château de sable, mais c'est une construction sur du sable qui n'a pas de fondation. Tout le monde se pose des questions sur le devenir de cet énorme géant, de cet énorme éléphant qu'est la Chine aujourd'hui et que nous essayons. C'est bien difficile de comprendre un peu, de décrypter, mais grâce je ne sais quelle divinité qui nous accompagne et nous arrive de rencontrer des gens tout à fait passionnants que vous entendrez dans les émissions très bientôt dès notre retour. Aujourd'hui, on continue en Corée, non pas en Corée, on n'est pas en Corée, on est en Chine en fait, à la frontière avec la Corée du Nord. Aujourd'hui, c'est les enfants, c'est les Kochebi, les enfants de Corée du Nord qui essayent de survivre à travers la partie chinoise, où on trouve beaucoup de Coréens qui sont là depuis très longtemps, et puis d'autres témoignages encore de cette petite partie très malheureuse du monde qu'est la Corée du Nord.
De l'autre côté, on voit la Corée du Nord. Et sur au pied de la colline, là, il y a une inscription, un texte, ça veut dire quoi?
Vive le général Kim Jong-il, le soleil du 21e siècle.
Vive le général Kim Jong-il, le soleil du 21e siècle. Voilà, c'est au bas de la colline, et là, entre la colline et nous, il y a des villages, on est en train de longer les villages. Avec des maisons de toit de chaume.
La montagne est rasée, c'est presque rasé. Il y a des champs en haut de la montagne.
Ça va comme ça jusqu'au fleuve. Donc la Corée du Nord est très très proche. Très très proche. De ce côté-ci, c'est une plaine qui descend légèrement ensuite, et le fleuve doit être en contrebas. effectivement, le paysage a le côté beaucoup plus pelé. Les cultures ont l'air beaucoup plus à l'abandon, sinon inexistantes. Je découvre au fur et à mesure. Et puis là, en contrebas, on ne voit pas encore bien, il y a le fleuve tout de même. Donc le fleuve qui fait la frontière entre la Corée du Nord et ici, le côté chinois. Et c'est par là que les enfants traversent, enfin que les fuyards, comme on les appelle là-bas, tentent de traverser.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Van Til, Corée du Nord. Tandis qu'ils agonisent.
Flight number 2, arriving.
Là, en contrebas, dans la boucle du fleuve, on aperçoit un village qui est juste au bord du fleuve, dans à quelques mètres de la frontière. Et c'est là que les réfugiés de Corée du Nord trouvent refuge et aide dans les maisons des Chinois.
Depuis la crise alimentaire, le régime nord-coréen avait besoin plus de terrains cultivables. Donc, les autorités ont donné les consignes de raser les montagnes jusqu'en haut pour en faire des terrains. Pour cultiver du maïs.
C'est pour ça que les hauteurs des montagnes qu'on voit de l'autre côté, enfin les collines qu'on voit de l'autre côté, sont rasées pour planter du maïs. Mais je vois rien de planté là pour l'instant. Hein. Regarde, il y a des gens de l'autre côté là-bas. Regarde de l'autre côté.
Les travailleurs sont en train de travailler. Ils sont en train de travailler.
Les gens vont travailler en groupe dans une ferme collective.
C'est là où ils sont tous habillés en rouge et en blanc avec des chapeaux. Là, de ce côté, on les voit marcher en ligne sur une petite route qui longe la frontière.
Il y a une voiture qui nous suit.
C'est pas une voiture militaire, non. De l'autre côté, on voit.
Ça, c'est le poste de frontière.
Et voilà le fleuve. Voilà le fleuve en contrebas. Alors ce qu'on voit maintenant, c'est que ces plantations de maïs, ben ça marche pas du tout. C'est sous nos yeux. Hein. Ça n'a pas marché du tout. Il y a des buissons et des petits arbres qui repoussent. Et c'est tout. Et évidemment que ça a entraîné, ça a accéléré le processus général de déforestation. Là, voilà le fleuve.
저쪽에 보면은 그리고 저쪽에 위에 뭐 굴뚝 나오는 조그만 집이 보이죠? 저
Vous voyez une petite maison avec la cheminée?
Oui.
군인이 국경 경비대 군인이 몰래 숨어서 감시하는 초소예요.
C'est un poste de garde caché pour surveiller les gens qui traversent le fleuve.
저 군인 하나가 왔다 갔다 하는 게 보이시죠? 군인 두 명이
Vous voyez deux gardes, deux poules.
Il s'approche, il regarde pour voir ce qui se passe.
차가 오랫동안 서 있으니까 지금 의식을 하는 위치거든요. 그러니까 지금 움직여야 됩니다.
이 폭풍 공선아이.
On est au nord de la Corée du Nord, on est en Chine, on est exactement à Yeonji, une ville proche du fleuve Tumen qui fait la frontière, qui marque la frontière entre la Corée du Nord et la Chine. Dans cette région, il y a un certain nombre de Coréens qui vivent là depuis longtemps, depuis le début du siècle, et la plupart depuis 1940, suite au conflit. Ils se sont installés là depuis longtemps. On les appelle les Chosun. Donc cette région est à moitié chinoise, à moitié coréenne. Ce sont des Sino-Coréens. Les réfugiés traverse donc ce fleuve qui est gelé l'hiver, c'est une région très froide, profite de ce que le fleuve est gelé pour traverser de nuit ce fleuve, ou même l'été, quand le fleuve a un débit réduit, et même en ce moment, au printemps, malgré la rapidité du fleuve, on n'hésite pas à se jeter pour tenter sa chance et traverser. C'est dangereux, bien sûr, il y a des gardes frontières du côté coréen, il y a aussi des gardes du côté chinois, et la Chine voit d'un très très mauvais œil l'arrivée de ces réfugiés. Depuis le début de la famine en 95, pourtant, ils sont des milliers à avoir passé ce fleuve dans des conditions souvent dramatiques. Certains se sont, et certaines se sont installés en Chine, dans cette Chine sino-coréenne, encore une fois, et essayent de disparaître dans le décor. Ceux qui sont pris à héberger des réfugiés sont lourdement punis d'amendes qui équivalent à peu près à un an de salaire. Donc c'est très difficile d'être un réfugié, c'est très difficile d'accueillir des réfugiés de Corée du Nord quand on est dans cette région de Chine. En plus, il y a des primes à la délation. Actuellement, la répression est renforcée et un policier se doit de ramener au moins 5 réfugiés à la frontière. C'est donc dans ce climat que nous arrivons avec Give dans cette ville de Yangji. Il faut vous faire une confidence, c'est que nous sommes des longs nez, c'est-à-dire que nous sommes extrêmement visibles. On nous remarque dès notre arrivée. C'est un peu comme si vous voyez dans votre rue passer des martiens peints en vert de 4 mètres de haut. Voilà à quoi nous ressemblons quand nous arrivons à Yangji. Et nous venons faire exactement ce que les autorités locales redoutent que nous fassions, c'est-à-dire tâcher de rencontrer ces réfugiés. On ne peut rien vous dire sur les moyens que nous avons employés. On a promis à ceux qui nous ont aidés de ne pas évoquer pour leur sécurité et parce que nous avons un engagement avec eux. Il y a les hommes qui passent, il y a des femmes qui passent, la plupart laissent leur famille, c'est très difficile évidemment de passer avec toute la famille, et ceux qui laissent leur famille savent ce qui peut arriver à leur famille, c'est qu'une répression très forte s'exerce contre les membres de la famille restant au pays et qui se retrouvent dans des camps. Il y a aussi des régions entières de la Corée du Nord où il semble bien que la population soit à l'abandon. Je dis il semble bien parce que vous avez compris que c'est très difficile de savoir ce qui se passe à l'intérieur de ce pays fermé, forteresse, où l'information ne circule pas et où, depuis le début de la famine, si des humanitaires peuvent circuler, aucun ne peut prétendre être allé partout dans le pays et donc avoir une vue d'ensemble, d'où la difficulté d'évaluer le nombre exact de victimes de cette famine. Mais il y a au moins plusieurs dizaines, centaines de milliers de victimes de cette famine, et ça continue à l'heure où nous vous parlons. Il y a aussi des enfants qui franchissent cette frontière. Ils franchissent cette frontière seuls. On dit qu'à travers la Corée du Nord, des bandes d'enfants se sont constituées et vont comme ça, se déplacent la nuit dans ce pays très très surveillé où la délation est reine, où c'est un enfermement mental aussi que subissent les Coréens du Nord. Le confucianisme là-dedans n'est pas pour rien. Donc c'est il y a une sorte de soumission à l'autorité, pour parler vite, qui fait que c'est très difficile déjà de survivre à l'intérieur du pays. Ensuite, il faut traverser ce fleuve, il faut passer à travers les gardes frontières, et puis, une fois en Chine, il faut très vite disparaître dans le décor. Qu'est-ce qu'on fait en Chine? Très souvent, pour les gamins, les enfants, ces bandes d'enfants qu'on appelle les kochebi, il faut essayer de faire la manche, essayer de gratter un peu de pognon sur les bonnes âmes qu'on peut rencontrer, et puis rentrer au pays pour ramener de l'argent aux familles, ou bien le garder pour soi et tâcher de survivre comme on peut dans ce pays où, quand on trouve une racine à bouffer, on se trouve bien heureux. Alors, on est à Yangji. Yangji, c'est la Chine et c'est une ville du Nord qui connaît des difficultés comme tout le Nord de la Chine, tout le Nord industriel. Mais c'est une ville assez prospère. C'est une ville où ça va bien, où les gens... Est-ce que c'est le printemps qui fait ça? Les gens sont souriants, sympathiques. Il y a des marchés. C'est une ville qui sent la bonne humeur et où on est, pour ce qui nous concerne, très bien reçu. Nous, les martiens de 4 mètres de haut, peint en vert, sauf qu'on est très visible auprès par les autorités chinoises et aussi par les agents nord-coréens qui se baladent dans le paysage en quête de réfugiés à ramener au pays et tout spécialement d'enfants. On a quand même réussi à rencontrer certains de ces enfants, ces Kochebi, au centre, on va dire, voilà, au centre de la ville de Yangji un soir.
C'est eux.
Tous les quatre enfants viennent de Corée du Nord.
Mais tous les quatre sont venus de la Corée du Nord et lui,
le grand,
il a une apparence correcte parce qu'il a été hébergé dans un foyer. Il a travaillé. Chez eux, il a fait de la lessive et tout.
Depuis quand tu es arrivé? Toi, tu es arrivé depuis 10 jours?
13
jours. Comment tu as fait pour traverser la rivière, toi, il y a 15 jours?
J'ai foncé
au fleuve à la nage.
T'as nagé, tu sais nager?
J'ai failli
me noyer.
Mais tu étais tout seul pour passer?
Ouais, j'étais tout seul et eux aussi, ils sont venus individuellement.
J'étais tout seul.
Ouais,
mes parents m'ont interdit de venir en Chine, mais j'ai des amis qui sont allés déjà en Chine et ils m'ont dit que c'était bien en Chine.
Mais quel âge tu as?
J'ai 16 ans.
T'as vraiment 16 ans?
Je suis né en 84.
Et en 1984, t'as 15 ans. Et tes parents savent que tu es parti? Tu leur as dit que tu partais ou ils ne savent pas?
J'ai écrit une lettre.
T'as écrit une lettre pour dire que tu partais?
On se déplace.
Tiens, je n'ai quoi derrière. On dit qu'il y a des gens qui meurent de faim là-bas. Dans votre pays.
Oui, il y en a.
Est-ce que vous en avez vu, vous?
Oui,
j'en ai vu moi aussi. Et moi aussi.
T'as vu des gens mourir de faim, toi?
Un jour, je marchais dans la rue et j'ai vu un sans-abri qui était allongé dans la rue.
Il était mort?
Oui, il était mort.
Et pourquoi tu as décidé de partir? Pourquoi tu es parti, toi?
Quelqu'un qui vient de passer là, alors on va se tenir. En attendant qu'il passe. On a les enfants tout de suite, ils ont des chutes.
Il y a des primes à la délation.
Et les enfants, ils ont très peur là, ils sont tout de suite dessus pour être sûr qu'ils ne seraient pas repérés. Et la même personne repasse.
Non, ils ont peur.
Ils veulent plus parler, là. Il regarde dans tous les sens, là. Il va guetter un peu pour voir de l'autre côté de la place s'il y a des gens qui arrivent. Hop, il s'en va en courant. Une petite bande comme ça, les quatre s'en vont en courant.
Ouais, elle veut qu'on ne se déplace pas.
En même temps.
On fait des entretiens au bord de la rivière, là-bas.
La période est très tendue. On nous dit qu'il y a des consignes qui ont été données à la police de ramasser les mômes et de les ramener à la frontière, à la police chinoise pour ramener les mômes à la frontière. Et il y a beaucoup de délations, il y a des primes carrément qui sont données pour ceux qui dénoncent des réfugiés. Et alors on dit que une consigne a été donnée aux policiers. Chaque policier doit ramener 5 réfugiés à la frontière. C'est que la Chine ne veut pas d'ennuis, ne veut pas d'emmerdement avec la Corée du Nord, d'une part, et d'autre part, il y a des problèmes ici, anciens déjà, de tensions entre la communauté coréenne, que les Chinois appellent la minorité ethnique coréenne, et le pouvoir de Pékin. Donc tout ça, c'est des facteurs de tension, déséquilibre, et aurait donné de ramener les mômes. Bon, alors ils se font ramener à la frontière, au bord du fleuve, et puis quelques jours après, ils reviennent.
Parce que là, on est en train de les suivre, ils sont en train de s'enfoncer dans l'obscurité au bout du quai.
Oui, oui,
la vieille ville.
Ils sont très malins, ils connaissent bien le terrain. Et partout dans le monde, on a pu rencontrer les bandes de mômes. Ils ont les mêmes organisations. Ils sont très très soudés, très très fidèles. Entre eux, ils ne se lâchent pas. Il y en a un qui devient le chef. Je ne sais pas comment. Et ils sont très très soudés. Ils sont capables d'aller n'importe où dans une ville, de se planquer dans les moindres. Ils viennent vraiment des chats comme ça, des petits chats sauvages de la ville. Enfin, tout un système de défense et de survie surtout, quoi. De survie, d'adaptation au terrain comme ça. Mais c'est fou ce qu'on voit là. On est en train de longer le fleuve. Et sur les rives du fleuve, il y a, sur les limons, quoi, du fleuve, il y a des jardins potagers, les gens font leur potager. Mais on ne vit pas trop mal. C'est une ville très moche, sans doute, très stalinienne, très soviétique.
Ah, ils sont là, c'est pas eux qui nous attendent en bas là. Ouais, c'est eux qui sont en bas.
Elle est aussi là, le sang du terrain.
On descend.
On descend.
Alors, je suis dans le noir, on remarque beaucoup moins les longs nez que nous sommes, et on descend dans la pénombre au bord du fleuve où les gamins, les Kochebi, nous attendent. Et c'est vrai qu'ils sont de très petits, très très petite taille. Alors généralement les Coréens ne sont pas très grands, mais là c'est la malnutrition qui est à l'origine de ce sous-développement physique.
Et là, on leur a acheté des glaces, ils sont en train de les bouffer à toute vitesse. Parce qu'ils ont très très peur ce soir de se faire piquer. Alors, dis-moi, toi le petit là, comment tu as fait pour traverser la rivière?
J'ai tout simplement franchi le fleuve. J'ai pris la région où il y a le moins de profondeur du fleuve.
Oui. 첫 번째 난 첫 번째 올 때 동무가 같이 할 때 땀 안 나 중국에 왔던 나에 그때가 같이 와서 가가 전거나 이랬던데 이번에 올 때는 그래도 한 번 들어서 길 안다고 난 올 때 혼자 들어갈 때 땀 안 나 이게
왜 je suis allé pour les
처음에 물이 여기까지 들어왔던 게 절반 동무한테 여기까지 들어왔던 게 두 번째 말은 6이 뚝 넘어서서 그다음에 헤엄쳐서 왔습니다.
La première fois, je suis allée avec un copain. Il a été déjà en Chine. Mais à la deuxième fois, je connaissais le chemin. On a nagé et le fleuve était très profond. Et j'ai failli me noyer.
Oui, parce qu'il y a des gens qui se noient. Il y a des réfugiés qui... Il y a des fuyards, comme ils appellent ça, qui se noient. Toi, comment t'as fait pour traverser?
J'ai traversé le fleuve gelé.
Ah, cet hiver, t'es passé cet hiver.
Ouais.
Et quel âge tu as, toi?
J'ai 17 ans.
T'as 17 ans,
Pour la prochaine,
vous avez des enfants de 8, 10 ans, puis 17 ans, 15 ans.
Ça, là, mon comment comprend quoi.
Est-ce que les Américains sont si grands?
Les Américains sont plus grands que vous, oui.
Mais vous savez, tu comme ton cooking crazy.
Mais même, vous avez pas vu les Chinois de 15 ans? Ils sont plus grands que vous, non?
Oui, ils sont plus grands que nous.
Ouais,
vous dites qu'on ment, mais c'est la vérité, on dit la vérité.
Ah, mais moi, je veux bien vous croire.
Gaëtan.
Et là, tu vas laisser la voir, parce qu'il y a quelqu'un qui passe.
Et de. Là, vous avez très peur. De quoi vous avez peur, là, en ce moment?
Comment de
l'État? On a peur de la police chinoise. On va mourir si on est pris.
Vous avez déjà été attrapé par la police? Qu'est-ce qui a déjà été attrapé par la police?
Oui, une fois.
Qu'est-ce qu'ils t'ont fait?
Sur à côté du marché. Je faisais du mendiant et j'ai vu des étrangers qui passent. Ouais, ils m'ont donné 20 won. C'est à ce moment-là que j'ai été pris par la police chinoise. Et je suis passé 15 jours en prison.
Comment c'était la prison?
Je suis restée allongée et il fallait me taire et il y avait assez à manger.
On mangeait bien.
Oui. J'ai mieux mangé en prison qu'en Corée du Nord. Il n'y avait pas tellement de nourriture, mais c'était mieux.
Qu'est-ce qu'il y avait à manger en prison?
Ouais, j'ai mangé de la soupe au chou et du pain à base de maïs.
Non, non, on se tait parce qu'il y a des gens qui passent au-dessus de nous. On est au bord du fleuve avec ce groupe d'enfants. Sur les bords du fleuve, il y a des jardins. Là où on est, c'est cultivé. Là, il y a des poireaux, il y a du maïs. Ce qui raconte que les gens de la ville font leur petit jardin pour arrondir leur fin de mois ou pour bricoler, quoi, pour survivre. Et on est avec ces quatre mômes qui ont la trouille de se faire piquer. Qu'est-ce que tu dis?
Il faut que ce soit vite fait, j'ai peur.
D'accord. Ok, qu'est-ce que vous allez faire maintenant?
Si on avait un peu d'argent, on va retourner en Corée du Nord. Il y a partout des gardes et j'ai entendu dire qu'il y a des côtiers qui ont été pris.
Des enfants qui ont été ramassés par les gardes.
Oui. On était 9 à l'origine et les 5 ont été pris par la police chinoise.
Ah, vous étiez neuf, votre bande, vous n'avez plus que 4, il y en a déjà 5 qui ont été pris.
À l'origine, il y en avait 15 ou 16. On était 15 ou 16.
Et vous n'êtes plus que 4 maintenant. Où est-ce que vous dormez cette nuit?
Ouais, on dort en plein air, partout dans la rue où il n'y a personne. Au bord de la rivière, ou un endroit tranquille où il n'y a personne.
Il y a un type qui passe avec une cigarette. Il faut se taire. On va pas rester plus longtemps. Oh. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant?
Oui, 5 000 won,
nord-coréen, ça fait 100 kilos de poudre de maïs. Donc si on gagne cet argent, on va retourner en Corée du Nord.
Et comment vous pouvez gagner cet argent ?
Il y a des gens qui ont de la pitié pour nous et ils donnent de l'argent, un petit peu.
Ah, vous faites la manche ?
Je vais avaler de l'argent avec une bande élastique. Je fais pas de caca quand, jusqu'à ce que je rentre en Corée du Nord. Et puis je mange en Corée du Nord et je vais faire du caca. Je vais sortir de l'argent. Je vais les laver et je pense que c'est utile. Moi, je suis obsédée par les gardes de la police chinoise. Quand je me réveille dans la nuit, j'ai peur et... c'est vraiment terrible.
Allez, on arrête là.
Oui.
Voilà. Voilà, deux. Vous les planquez. Hein. Bon, bonne chance, les enfants. Allez, sauvez-vous. Ok, ciao, ciao, ciao. Ils sont partis à toute vitesse, t'as vu ça. Ils sont tirés vite fait. Il y a une ambiance de parano dans une ville qui, par ailleurs, a l'air tout à fait tranquille, quoi.
C'est ce qu'on appelle les Kochebi, les orphelins, les enfants de Corée du Nord qui fuient leur pays où la famine sévit depuis déjà plusieurs années et qui essayent de trouver refuge, trouver de quoi grignoter des miettes, un peu d'argent en Chine, du côté chinois du fleuve Yumen, où, je vous le disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de Coréens, de Sino-Coréens comme on les appelle, qui vivent là depuis pas mal d'années et qui parfois, souvent, pas toujours, hébergent ces enfants clandestins. Combien sont-ils d'enfants, de réfugiés en général ? On ne sait pas très bien. On évalue à une centaine de milliers déjà ceux qui se sont inscrits dans le paysage, dissimulés dans le paysage et régulièrement à quelques dizaines de milliers ceux qui font l'aller-retour d'un bord à l'autre du fleuve. Une autre rencontre, un autre témoignage, celui de Yewan. Yewan est une jeune femme, qui doit avoir une petite trentaine d'années que nous avons rencontrée et qui a été vendue. Il faut savoir que c'est une histoire connue en Chine, dans cette énorme Chine. Il y a un déséquilibre démographique, il y a un manque de femmes, et surtout dans les campagnes, comme celle où nous nous trouvons dans les alentours de Yangji, dans les alentours de ce fleuve. Et donc, cette femme que nous rencontrons, qui est avec un enfant, un bébé qui doit avoir 5 ans, nous raconte son histoire. L'histoire de Yewan. Alors, d'où vous venez ?
De la ville de Changjin, en Corée du Nord.
Changjin, c'est un port ?
Oui, c'est un port.
Vous viviez bien ?
À À cette époque-là, on vivait correctement, je pourrais dire, mais la situation s'est aggravée de plus en plus avec la crise. On avait faim, donc on ne pouvait plus aller à l'usine. Il y avait des gens qui prenaient des équipements de l'usine pour les vendre sur le marché.
Par exemple, vous aviez quoi à manger dans une journée quand vous étiez à l'usine ?
Un repas par jour, c'était bien. Parfois, on n'avait rien mangé dans une journée et on mangeait de la soupe aux plantes avec de la poudre de maïs.
Des dizaines, maintenant, même des centaines de témoignages comme celui-là ont été recueillis. Pourquoi c'est si précieux ? D'abord parce que c'est enfin la voix en chair et en os de ces réfugiés nord-coréens, je dirais, qu'on rencontre là. Et puis aussi parce qu'on n'a pas d'autre moyen d'essayer de comprendre, savoir ce qui se passe à l'intérieur de ce pays que ces témoignages-là. Mais après tout, on a appris énormément de choses dans le passé, par exemple avec les témoignages des réfugiés cambodgiens au temps des massacres de Pol Pot. Et donc, ces témoignages, évidemment, ont une valeur infinie, puisque ça a une valeur humaine, mais c'est beaucoup plus que ça. Alors, à quel moment Yewan a-t-elle quitté son pays, la Corée du Nord?
C'est en 97 où j'ai décidé de quitter le pays parce que ma mère a décédé à cause de la famine et j'ai eu des difficultés pour élever mon enfant toute seule.
Vous dites qu'elle est décédée de la famine ?
En 97, ma mère, elle n'avait pas assez à manger, donc elle a sauté les repas pendant plusieurs jours. Il y avait des trains de transport de céréales et elle voulait ramasser des céréales qui sont tombées par terre. Et comme elle était très affaiblie, elle n'a plus de force de marcher. Près de la station, elle est décédée.
그 우리 엄마 그 시체는 그때는 그 우리가 그 조금 더 가게 되면 이렇게 산이 있는데 산에다가 그저 묻어주고 그래요.
On l'a enterré dans une montagne près de chez moi. J'ai vu pas mal de personnes qui étaient allongées dans la rue parce qu'ils n'avaient plus de force de marcher et les parents souvent abandonnent leurs enfants parce qu'ils ne pouvaient plus les nourrir et les enfants errent dans la rue. Il y a pas mal d'enfants qui sont morts, parfois on les enterre dans les montagnes ensemble.
dans des fosses communes.
내 눈으로 직접 본 거는 그입니다. 이렇게 우리 흔히 이렇게 식량 안 주다가 혹시 이렇게 이 중국에서 지원해 준다든가 이럴 때에는
Quand il y a de l'aide internationale, par exemple de la Chine, on a de la distribution alimentaire et dans ce cas-là, la priorité est accordée aux plus pauvres. Chez moi, ça allait, mais il y avait un voisin à côté de chez moi. C'était un foyer de 4 personnes et tous les 4 se sont suicidés. En mettant du poison dans des céréales, ils se sont suicidés parce que pour eux, c'était très difficile de survivre.
Quatre personnes qui se suicident en mettant du poison dans leur propre nourriture. Là. Yohan a un enfant de 5 ans en Corée du Nord et elle a maintenant avec elle ce bébé qui a 5 mois. On dit qu'il y a encore des quantités de morts de faim au bord des routes qui sont ramassées par les services publics et qui disparaissent.
Oui, à Busan, j'ai vu plusieurs cas comme ça.
On raconte qu'il y a des cas de cannibalisme. Est-ce que vous avez vu ça? Des gens qui mangent des morts?
J'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui ont attrapé des enfants qui erraient dans la rue et ils les ont coupé la langue. Et ils ont extrait du sang chez ces enfants et ils ont vendu sur le marché.
Impossible à vérifier, bien sûr, sauf des quantités de témoignages qui racontent des histoires comme celle-là, ceux recueillis par des organisations humanitaires de tous bords et de toutes dimensions, dirons-nous. Alors, Yewan, donc, décide de quitter la Corée du Nord, de tenter sa chance, sa survie. Elle laisse là-bas son enfant de 5 ans et traverse le fleuve avec un voisin, ami et aussi une amie.
Il m'a confié chez un foyer avec qui il avait des connexions auparavant. Et l'autre fille qui était avec moi, elle a été vendue à Heilongjiang.
Est-ce que vous saviez que vous pouviez être vendue?
Non, je ne savais pas avant.
Il y a un réseau de vente de femmes, ici, en Chine.
N'importe quelle personne peut vendre des femmes qui ont traversé le fleuve.
Qui achète des femmes?
Les
C'est plutôt à la campagne qu'à la ville qu'elles sont vendues pour les agriculteurs. Ils ne sont pas forcément très riches, ils sont plutôt pauvres. Mais les paysans, ils ramassent un peu d'argent et puis ils achètent des femmes. À peu près 5000 yuan chinois, ça fait...
Ça fait 3500 francs.
3500 francs, ils vendent une femme. C'est beaucoup d'argent pour un paysan.
Pour les paysans, c'est plus que ce qu'ils gagnent en un an.
Vous êtes complètement suffoqué d'apprendre ces histoires-là. Ça se passe depuis pas mal d'années déjà à travers toute la Chine. C'est interdit, c'est réprimé. Mais la vulnérabilité totale de ces femmes coréennes fait que dans cette région, eh bien, on vend ces femmes. Selon certaines sources, on nous affirme que 30 000 femmes depuis 5 ans ont été vendues de cette façon, qui est difficile à croire et difficile à vérifier, bien évidemment. Histoire de Yewan, suite.
Je dormais près du fleuve et il y avait un homme qui est venu et il m'a menacé en disant « Si tu ne viens pas avec moi, je vais te tuer. » Oui, c'est... Je ne sais pas qui était. C'était un Chinois. Il m'a vendu. Et...
Alors, il vous a vendu à qui et comment ?
Il a appelé son oncle et le papa de mon enfant est venu et il a payé pour moi et il m'a acheté.
Le papa de celui qui est son enfant maintenant, quoi. C'est-à-dire un homme est venu l'acheter et cet homme c'est le père du bébé qui est en train de pleurer maintenant.
Combien vous avez été vendu ?
À 5000 yuan, soit 3500 francs.
Mmh. Mais qui a touché l'argent ? À qui est revenu cet argent ? À l'homme qui vous avait capturé à la frontière ?
Oui, c'est ça.
Et qui est l'homme qui vous a acheté ?
Le papa de cet enfant.
Qu'est-ce qu'il fait, lui ?
Il souffre d'une maladie à la maison.
Et quelle maladie ?
Tuberculose.
Le papa est tuberculeux ?
Oui, c'est ça.
Et vous vous en occupez ? Vous vous occupez de lui ?
Oui. Oui, je m'en occupe.
Et vous vous entendez bien avec lui ?
Oui, je m'entends assez bien avec lui. De toute façon, j'ai personne ici. Il n'y a que sur lui que je peux compter.
C'est un homme qui vous a acheté après que vous ayez été enlevé. Et vous l'appelez votre mari et vous vous occupez de lui.
C'est pas marié avec lui officiellement, mais ils vivent en tant qu'époux-épouse.
Est-ce que vous avez rencontré d'autres femmes qui sont dans votre situation ?
Oui, dans mon village, il y a 15 personnes comme moi.
C'est-à-dire qu'il y a une quantité de Nord-Coréennes qui ont été vendues à des paysans chinois ou sino-coréens et qui se sont installées avec eux. Et...
Oui, c'est ça.
Ça veut dire qu'il y a des centaines et des centaines de femmes qui ont suivi le même parcours que vous.
Oui, je crois.
C'était une rediffusion du reportage de Daniel Mermet et Guy Vanctil. Merci à Johan. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Serge Viguier et Christophe Papon. Réalisation Yann Chouquet et Koy Nguyen, assisté de Charlotte Perry. Chef du répondeur, Christophe Imbert. Si vous souhaitez réagir à cette émission, vous avez plusieurs possibilités. Le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37, ou l'email daniel.mermet@radiofrance.com. Un rendez-vous à noter, demain, vendredi 16 février, le cabaret de l'Union vous propose à partir de 18h une soirée thématique « La France au chômage » avec le film de Patrice Desmazeries, « Chômage, la baisse à tout prix » et une rencontre débat en compagnie de Fabienne Brutus et François Dezanti, auteurs de plusieurs ouvrages consacrés au fléau du chômage en France. Le cabaret de l'Union, c'est au centre des archives, 78 boulevard du Général Leclerc à Roubaix.